Ce matin, ce n'est, on pourrait appeler ça un message, une exhortation, une étude. On pourrait appeler ça de bien des différents mots. Mais moi, j'appelle ça plutôt les souvenirs. Les souvenirs de notre départ avec Dieu. Et ça, ça devient important. Parce que c'est trop facile d'oublier le jour où le Seigneur est venu nous rencontrer. Et bien souvent, quand on l'oublie, bien, on perd des bénédictions, puis les Écritures nous parlent de compter les bienfaits de Dieu. Le premier bienfait que vous avez eu du Seigneur, c'est quoi vous pensez que c'est? Hein? La vie, effectivement. Il y a plusieurs qui diraient dans ça que c'est la venue au Seigneur. Mais la première chose qu'il vous a donnée, c'est la vie. Le souffle que vous avez vécu. Mais qu'est-ce qui vous a emmené, quel intérêt vous avez eu à chercher Dieu? Hein? Quel intérêt, on pourrait dire, vous avez eu à chercher Dieu? Comment ça s'est produit? Comment c'est arrivé? J'aime ça poser ces questions-là parce que ça nous fait réfléchir. Puis imaginez-vous que j'ai réfléchi un bout, moi aussi. Parce que ça peut être bien des choses. Qui a amorcé votre intérêt pour Dieu?
Le Saint-Esprit.
Oui, mais il y a une chose importante dans les Écritures, Paul, parce que le Saint-Esprit fait son travail, mais la Trinité aussi fait son travail. Aussi, une personne qui vous a parlé de son expérience avec le pardon de Dieu ou une occasion comme invité à un concert ou à une réunion d'évangélisation ou peut-être une lecture. C'est quoi qui vous a touché en premier pour avoir un intérêt pour aller plus loin avec Dieu? Paul a dit le Saint-Esprit, c'est vrai. C'est une réponse qui est formidable. Mais il y a un processus. Je veux dire, le Saint-Esprit, on sait tous, comme chrétiens, que c'est la chose qui s'est passée. Mais par contre, les non-chrétiens, eux, ils ne savent pas comment ça s'est passé. C'est pour ça qu'on est rendu qu'on doit donner nos témoignages, lui conter qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Et avant d'aller plus loin, on va se courber, on va prier notre Dieu, qui nous aide à bien réfléchir sur ce sujet. Papa du ciel, on est heureux ce matin d'être en présence de tes enfants, en présence de toi, de tout ton amour, toute ta miséricorde envers nous. Seigneur, aide-nous à bien répondre et à bien répondre à ton appel, mais aussi à bien répondre à tout ce que tu nous apportes, tout ce que tu mets devant nous, cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Seigneur, qu'on a tellement besoin de compter les bienfaits, tellement besoin de s'approcher de toi et de redécouvrir. Parce que, Seigneur, tu ne nous enseignes pas rien qu'une journée par année. C'est à tous les jours. Et tu nous demandes, Seigneur, et tu répètes et répètes et répètes les choses que tu nous révèles afin qu'on finisse par bien comprendre, bien saisir. Merci pour ton Esprit Saint qui nous guide, qui nous console, qui nous aide aussi à mettre en pratique, Seigneur, cette bonne nouvelle que tu as mise en nous. Bénis-nous ensemble ce matin, au beau nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, attire, premier verset, Jean 6, 44. Et ça, c'est important pour découvrir comment qu'on est venu au Seigneur et de quelle façon le Saint-Esprit s'est pris. Dans Jean 6, 44, ça dit quoi? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, il doit avoir une certaine attirance. Une certaine attirance à découvrir qu'est-ce qui se présente à nous, qu'est-ce que main Dieu s'est présenté à nous. Oui, par le travail du Saint-Esprit, mais il a dû avoir autre chose. Qui est venu faire ce travail, nous compléter, afin qu'on découvre notre salut. Donc, que personne ne s'imagine pouvoir venir à Christ par sa propre pensée ou par son simple désir, il faut d'abord qu'il soit attiré par Dieu. Il faut qu'il soit premièrement attiré par Dieu. Essayez pas de faire quelque chose par vos propres forces, même si vous êtes né de nouveau, même si ça fait quelques années que vous êtes chrétien. Si Dieu n'est pas présent avec vous dans ce que vous voulez faire, vous allez rusher. Croyez-moi. J'en ai fait l'expérience il y a quelques années. Puis, ce n'est pas nécessaire d'être rendu un vieillard ou un jeune homme ou une jeune fille, une femme, pour connaître Dieu. Dieu attire dès la jeunesse. Il veut que les gens soient sauvés. Il veut les emmener auprès de lui, donc il attire depuis le début. Et pourquoi qu'il y en a qui viennent au Seigneur à 5-6 ans, d'autres à 20 ans, d'autres à 40 ans, d'autres à 70 ans? Ma grand-mère est venue au Seigneur à 80 ans, grand-maman Bédard. Il n'y a pas d'âge pour Dieu. Il n'y a pas de temps non plus pour Dieu, parce que Dieu il a l'éternité pour lui. Donc il peut attirer quand il veut. Lorsque les hommes, par l'enseignement du Saint-Esprit, découvrant leur culpabilité, leur danger spirituel dans lequel ils se trouvent et le remède à prendre, qu'est-ce que vous pensez que les gens font à ce moment-là? Ils sont alors disposés à s'approcher de Christ et heureux de le faire. Comme Jean-Marc nous partageait cette semaine que son oncle, il avait l'air heureux d'entendre ce que Jean-Marc lui disait. Vous ne pensez pas que c'est le Saint-Esprit et Dieu qui est avec Jean-Marc pour l'aider à continuer à parler à cet homme et qui était heureux de l'entendre et qui disait que c'était la première fois? Dieu se sert de qui il veut, dans le temps qu'il veut et de la manière qu'il le veut. Fait que si vous essayez de préparer des choses, oubliez ça. Faites confiance à Dieu, faites confiance au Saint-Esprit, que lui va vous donner tout ce que vous avez besoin pour des cas comme ça ou d'autres. Mon fils, aussi si loin que je peux me rappeler, lui, il a connu le Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est le livre d'Apocalypse, mais vous dire de quoi? Il y a du stock dessus, puis il aime ce livre-là. Il y a plusieurs qui trouvent ça rare, mais lui, c'est son livre qu'il aime le plus. Moi, c'est les psaumes. Et il y a d'autres qui ont des préférences dans les Écritures dans certains livres, parce que ça leur parle d'eux-mêmes, ça leur parle d'eux, ça leur parle de leur situation. Donc, ils sont heureux de le faire en abondant tout ce qui les empêche de bénéficier du salut de Dieu. Quand vous réalisez que le Seigneur peut vous donner au-delà de votre imagination, il peut vous donner une vie d'abondance au-delà de ce que vous pensez, ça devient très intéressant pour celui ou celle qui s'intéresse aux choses de Dieu. La volonté du Père est qu'aucun de ceux qui ont été donnés au Fils ne puisse être repoussé ou perdu. Dieu ne repousse personne. Et les gens, bien souvent, qui, pour la première fois, entendent parler de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Église, ils ont peur. Ils ont peur. Il y en a plusieurs qui vont vous l'avouer, d'autres, non. Il y a toujours le principe de l'orgueil qui est là, c'est sûr. Mais ils ont peur. Ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Et c'est à nous, dans notre témoignage, dans les choses qu'on fait autour de nous, de lui dire, garde Dieu m'aide. Dieu est présent dans ma vie. C'est Dieu qui dirige. Et là, les gens vont vous demander de l'explication. Et qu'est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit va faire? Il va travailler avec vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nul ne peut venir à lui sans être soumis à la grâce divine. La seule qui ait changé son cœur, c'est pourquoi aucun de ceux qui s'approchent du Seigneur ne sera rejeté. Tous ceux qui s'approchent, peu importe dans l'état que vous êtes, peu importe la façon que vous allez le faire, Dieu ne vous rejettera pas. L'Évangile annonce qu'aucune personne, même disposée à se sauver elle-même par une certaine humiliation ou dans une vie de sainteté, ne peut être rachetée. En fait, Dieu attire l'homme par sa parole et le Saint-Esprit. Le devoir de tout homme est d'entendre et d'apprendre, c'est-à-dire de recevoir cette grâce offerte et d'accepter cette promesse du salut. Qu'est-ce qu'on vient de dire là? Est-ce que vous pouvez, vous, compter vos chevaux que vous perdez en prenant votre douche? Non, hein? Pourtant, Dieu les compte. Est-ce que vous pouvez même faire un geste sans que Dieu le permette? Non, vous ne pouvez pas non plus. Et quand on commence à réfléchir, à rentrer à l'intérieur, puis là, on est seul face à Dieu, on est seul face à lui, on ne peut pas comparer aux autres, on est seul avec le Seigneur. Et c'est là l'importance qu'il y a un verset qui dit « Rentre dans ta chambre, parle avec Dieu. » Quand tu es dans la chambre face à Dieu, tu es tout seul avec. Tu n'as pas un « Ah, oh, ben lui, il est comme ci, il est comme ça. » Non, c'est toi et Dieu. Et c'est important d'avoir cette relation-là parce que Dieu, c'est là qu'il se révèle et c'est là qu'il vous dit qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Vous savez, le film « La chambre de prière », j'espère qu'il y en a qui l'ont vu. C'est intéressant comme film parce que ça démontre beaucoup de vérités bibliques. Donc, nul n'a vu le Père. Est-ce que vous avez vu Dieu? Je ne pense pas, moi non plus, je ne l'ai pas vu encore. Mais on peut se l'imaginer à travers les beautés de sa création et tout ce qu'il fait. Mais on ne l'a pas vu. Nul n'a vu le Père si ce n'est son Fils bien-aimé. Dans ce texte, les Juifs devaient accepter l'enseignement de Jésus, sa puissance spirituelle, sa parole et les disciples qu'il a envoyés parmi le peuple. Les gens devaient accepter. Même les Juifs, est-ce qu'ils l'ont fait? Non, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas accepté le message qui venait de Jésus. Ils l'ont refusé. Et merci Seigneur qu'ils l'aient refusé, parce qu'on ne serait pas ici ce matin. Ça aussi, il faut le réaliser. Il faut le comprendre que c'est une grâce que Dieu nous a faite et qu'on soit ici ce matin. Un autre verset qui nous parle. Jean 16, 8. C'est qui vous a convaincu? On ne pouvait pas se convaincre nous-mêmes. Au départ, on ne savait même pas qui était Dieu. On avait une certaine religion, peu importe la religion que vous pratiquez, une certaine religion qui nous aidait à dire que Dieu est comme ça. Mais qu'à l'intérieur, du côté spirituel et tout cela, on ne connaissait pas grand-chose. En tout cas, moi, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, dans Jean 16, 8, ça dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Là, tu viens de t'intéresser, comme on l'a lu depuis tantôt, tu viens de t'intéresser aux choses de Dieu. Mais là, Dieu te fait connaître quelque chose. Il te fait connaître un envoyé qui t'envoie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Pourquoi qu'il t'envoie le Saint-Esprit? Afin que tu connaisses quel état que tu as, où ce que tu es dans ta vie et de quel moyen t'en sortir, trouver la solution au problème. Et c'est là qu'on voit le verset qui dit « Il convaincra le monde, pas nous seuls, le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le péché, c'est notre état de pécheur. La justice, c'est ce qu'on devrait subir. Et le jugement qui est pour nous. Mais comment ça se fait, ça? De quelle façon ça arrive, ça? Jésus et les apôtres nous l'ont dit dans Romains, les versets 10, je veux dire chapitre 10, les versets 13 à 15. Ça nous dit au départ dans le verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais, c'est un peu, là. C'est une minute, là. Est-ce que vous pensez que tout le monde connaisse Dieu présentement? Non, hein? Est-ce que vous pensez qu'ils ont des pensées seulement vers Dieu?
Non.
Non. Imaginez-vous que nous, avant de connaître Dieu, on n'y pensait même pas à Dieu. Ben, imaginez les gens qui ne veulent rien savoir de l'Évangile, qui ne veulent rien savoir de Dieu, est-ce qu'ils y pensent? Non. Donc, comment, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment cela, ça peut arriver? Le verset 14 nous en dit un petit bout. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Saint-Esprit vient nous convaincre, mais attention, on a besoin de l'aide de Dieu, l'aide aussi des frères et des sœurs. Il ne faut jamais négliger ce côté-là. N'oubliez pas que vous êtes tous frères et sœurs, vous êtes tous égaux devant Dieu. Ce n'est pas parce que je suis assis sur une belle chaise que je suis mieux que tout le monde ici, moi, là. Non, c'était peut-être le pire, parce que j'ai besoin d'aide. Le verset 15. Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous savez, il y a une activité aujourd'hui qui se passe à Québec. Toute la fin de semaine, le Forum des évangélistes. Notre directeur de mission, il est là. Le camp des îles, les directeurs du camp des îles sont là. Les deux jeunes qui vont partir bientôt en mission, Silas et Zoé, sont là avec Bethel. Parce que Bethel est là était là pour la fin de semaine. Donc, cette activité-là a simplement dans le but de faire connaître l'Évangile. De aussi peut-être aider des églises à comprendre le message de l'Évangile et malheureusement, des fois, les difficultés qui encourent côté, soit monétaire ou autre. Donc, c'est vrai qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent Jésus-Christ. Et c'est la Bible qui nous le dit, c'est pas moi. Un autre verset, Matthieu 6, 33. Quand vous avez commencé à avoir de l'intérêt pour Dieu, de l'intérêt pour ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, vous allez tomber à la recherche. Moi, je me souviendrai toujours qu'on avait fait, Marie-Paul, un pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap parce qu'on n'était pas chrétien dans le temps. Et on a fait tout ce qu'on pouvait pour découvrir ce que Dieu voulait. On arrive à la maison avec une grosse Bible en images. Très peu de versets, beaucoup d'images. Mon oncle Renaud arrive à la maison, il dit, François, ben, si tu veux vraiment chercher les choses de Dieu, il dit, me donner un petit Nouveau Testament. Ah, j'avais envie de rire, moi j'avais ma grosse Bible, là. Puis lui son petit Nouveau Testament. Mais quand j'ai lu le petit Nouveau Testament, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'images dans ma grosse Bible, mais elle ne parlait pas autant que le petit Nouveau Testament. Il y avait beaucoup plus de choses dans le petit Nouveau Testament que dans la Bible, en images. Et la Bible en images ne reflétait pas toujours ce qu'était la vérité. Donc, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Pourquoi? Pourquoi qu'on chercherait premièrement le royaume et la justice de Dieu? Ça vous est jamais arrivé de rêver, de faire partie d'une gang qui avait un château, puis que vous étiez un des chevaliers ou chevalières, peu importe. Ben, on espère qu'on va avoir de quoi auprès de Dieu quand on cherche. Et quand on trouve son royaume, et qu'on réalise que ça prend la justice de Dieu pour y accéder, comme le verset nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, être réconcilié avec Dieu, être en sa présence, son royaume, mettez tous les châteaux en Espagne, c'est un glacier, ça va fondre, ça va tout disparaître. Tandis que l'éternité, le royaume de Dieu ne disparaîtra jamais, parce que c'est éternel. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher quand on commence à avoir de l'intérêt pour Dieu, pour son royaume? Ça, c'est chercher justement, c'est quoi son royaume? C'est qui son royaume? Et sa justice, ça va être quoi? Pour mes péchés, c'est la mort. Mais il a envoyé son fils Jésus-Christ, pourquoi? Pour qu'on puisse être justifié devant Dieu. J'espère que vous vous rappelez de ce jour merveilleux où ce que vous avez senti dans votre cœur, dans votre âme, que Dieu vous avait pardonné et que vous pouviez rentrer simplement dans le royaume des dieux. Puis Éphésiens, pardon, nous dit qu'on est déjà assis dans le royaume de Dieu. Notre position est déjà là. Et qu'est-ce que le verset nous dit pour finir? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce que Dieu a en réserve, tout l'héritage qu'il veut vous donner, il va vous le donner si vous cherchez premièrement son royaume et sa justice. Pas ma justice, ni mes idées, ni mon petit royaume de ma petite maison. Non, 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 non. Ce que Dieu représente, ce que Dieu est, ce que son Fils est, et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait lui aussi. C'est tout ça ensemble. Vous ne pouvez pas, comment il dirait ça, vous ne pouvez pas séparer ça. C'est une unité éternelle. Maintenant, c'est bien beau de parler, François, comme tu parles de qui nous a emmenés là, comment ça s'est fait, qui nous a attirés. Mais qu'est-ce que Dieu fait, lui? C'est une bonne question, ça aussi. Hein? Qu'est-ce que Dieu fait durant ce processus-là, qui est la nouvelle naissance, qui est la réalité qui vient dans nos cœurs, dans nos âmes? Mais comment que Dieu... Qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur, il est venu planter une graine, un germe dans nos cœurs. Le germe du salut. Donc, ce germe de la grâce que Dieu vient déposer en nous lorsque, de notre conversion, on a commencé à connaître Jésus-Christ, Dieu, à travers soit une rencontre, soit un témoignage, soit une soirée, peu importe, on accepte le Seigneur Jésus. Le Seigneur vient porter dans nos cœurs, dans nos âmes, le Saint-Esprit. Et comment qu'on peut lire ça? Où qu'on peut lire ça? On va y aller. Dans 2 Corinthiens 1, 22. Lesquels nous a aussi marqué du sceau, d'un sceau, et a mis dans notre cœur les arts de l'Esprit. Donc, le Seigneur, quand il est venu, on a permis à Dieu, si on peut même pas, c'est lui qui l'a fait. Et Dieu a pris notre vie, notre situation de pécheur. Il nous a dit, garde, je vais régler ça, repens-toi, et je vais te pardonner. Il nous envoie le Saint-Esprit. Aussi, dans 2 Corinthiens 5, 5, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est écrit. 2 Corinthiens 5, 5, je suis bien assis, je peux attendre que les pages tournent. 2 Corinthiens 5, 5, et celui qui nous a formés pour cela, Et ici, j'insiste sur le mot « former ». C'est qui a formé? C'est Dieu. Hein, pour cela, pourquoi? C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Et on n'a pas fait grand-chose à venir à date, hein? On n'a que répondu à l'attire que Dieu qui nous attirait. Il nous a fait comprendre notre état. Il nous a sauvés. Et là, il nous emmène quelqu'un pour nous aider. C'est ce qui est en train de procéder à travers tout ce processus-là. Puis, ça vient de loin aussi, ces choses-là, parce qu'on dit, oh, ça, c'est dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a de quoi dans l'Ancien Testament? Bien sûr. Bien, dans l'Ancien Testament, on nous parle de ce germe. Ésaïe 4, 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les rescapés d'Israël. Dieu venait de rescaper son peuple. Il venait de les aider, puis là, Dieu promet des promesses. Aussi, dans Ésaïe 11, 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et le rejeton naîtra de ses racines. » Ici, on parle de Jésus-Christ. Ésaïe 53, 2, « Il s'élèvera devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Le Seigneur nous attire, mais pas de la façon que les gens pensent. Le Seigneur nous attire à ce que notre cœur soit vraiment attiré à Dieu. Hein, parce que Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ, selon ce texte, était d'une beauté pour nous impressionner terrible? Non. Est-ce qu'il était, il faisait tout pour nous plaire? Non. Il ne faisait pas ça non plus. Ce qu'il faisait, c'est qu'à travers le Saint-Esprit, à travers lui, il venait révéler son Père. Il venait révéler qu'est-ce que Dieu voulait révéler aux hommes, c'est-à-dire le pardon de leurs péchés et leur réconciliation avec lui-même et leurs éternités avec lui. C'est ça qu'il venait révéler. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait, ce germe-là? Il fait pousser en nous les prémices de la compassion de notre Dieu et de notre Sauveur. Le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour nous écraser, il n'est pas venu ça, il est venu à notre secours. Parce que si on ne connaissait pas Dieu, si on ne connaissait pas notre état, si on ne connaissait pas que Dieu pouvait nous sauver de nos péchés, où est-ce qu'on allait? L'autre côté, l'enfer pour l'éternité. Est-ce que c'était plus intéressant? Je ne crois pas. Mais notre intérêt devait être sincère et vraiment fondé sur Dieu lui-même. Jésus n'est pas venu dire, regarde, c'est moi qui veux. Non, non. Il est venu pour montrer aux êtres humains, à la création, qu'il était le Fils de Dieu, oui, mais que c'était son Père qui était important. C'était son Père qui avait la décision. Puis quand Jésus il parle aussi à ses disciples, quand le jeune homme riche est arrivé, il lui dit aux hommes, c'est impossible. Mais est-ce que dit à Jésus-Christ, c'est possible? Non. Il dit à Dieu, tout est possible. Donc, c'est à bien comprendre les Écritures, à bien les interpréter et à ne pas dire n'importe quoi non plus. Donc, que fait ce germe? Il fait pousser en nous les prémices de la compassion de notre Dieu et de notre Sauveur. Autrement dit, la parole vient à nous, elle pousse abondamment, Si vous ne lisez pas, c'est certain qu'il va y avoir de la misère. Mais si vous lisez cette parole ou que vous venez au culte ou aux études bibliques, c'est sûr et certain que vous allez avoir de la parole de Dieu qui va pousser en révélation en vous, en vous aidant à comprendre et à saisir ce que Dieu veut. Donc, pendant que Jérémie était encore enfermé dans la cour de la prison, le Seigneur fit des nouvelles promesses merveilleuses de restauration en Israël et en Juda. Le pays sera réputé par un peuple joyeux, les montagnes regorgeront de troupeaux, et par-dessus tout, le Messie viendra. Voyez-vous, déjà dans le peuple d'Israël, il y avait des belles promesses, des belles choses, puis en plus, il lui promettait que le Messie viendrait. Un germe de justice, un descendant de David, on l'appellera l'Éternel, notre justice. L'Éternel donne son nom à la nation d'Israël restaurée, tout comme homme donne son nom à son épouse, et comme Christ donne